Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous et bienvenue donc en Pologne, la Tarczynski Arena de Wrocław, théâtre donc du premier match des Bleus sur la route de la Coupe du Monde aux États-Unis. Ukraine-France, coup d'envoi à 20h45, ce sera en intégralité sur RMC avec Florent Germain, l'un de nos envoyés spéciaux ici en Pologne à mes côtés. Salut Florent.
Salut Jean-Louis, salut à tous.
Lionel Charbonnier de la Dream Team est avec nous. Salut Lionel.
Salut messieurs, salut à tous.
Alors d'ici au coup d'envoi, on a plein de choses à vous dire, on a plein de débats à faire. La compo bien sûr dans une seconde. On va s'arrêter également sur le capitaine Kylian Mbappé. Est-ce la clé de la réussite ce soir? Le capitaine fédérateur qu'on a, comme on a pu le voir hier en conférence de presse, vous l'entendrez, on vous attend au 32-16 pour débattre. On évoquera également la sélection ukrainienne. Quelle place a cette sélection dans le conflit qui oppose le pays à la Russie? Ce sera tout à l'heure. Mais on se concentre sur le match de ce soir et donc sur un homme, Kylian Mbappé.
Chacun des coéquipiers qui sont là a une place, quand bien même elle n'est pas forcément sur le terrain des fois, mais elle est ô combien importante dans la vie d'un groupe.
Dembélé, Mbappé, Mbappé a pile que droit, Mbappé du droit, la frappe de Mbappé. Et le voilà, le but de Kylian Mbappé.
Il a toujours assumé ce rôle de capitaine avec d'autres joueurs. Il n'est pas seul, mais il sait très bien qu'aujourd'hui, depuis qu'il est capitaine, sa parole engage un groupe. Il a cette responsabilité-là.
C'est le match d'une vie. On ne peut pas faire pire. De toute façon, on ne peut pas faire pire que ce qu'on a fait. On retourne sur le terrain sans les laisser jouer au con. Soit on y va, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose déjà.
Le 1 contre 1, ce ballon pour Mbappé, la frappe. Oh, quel but! Oh, le doublé de Kylian Mbappé!
Voilà Kylian Mbappé, on en reparlera tout à l'heure. On va détailler tout de suite les deux compos d'équipe. La compo française qui était donnée dès 19h dans Rotten sans flamme, Flo.
Et même dès hier sur RMC, effectivement, Mike Maignan dans le but de cette équipe de France. La défense de droite à gauche, Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayo Upamecano et Lucas Digne. Les deux milieux relayeurs, Manu Koné associé à Aurélien Tchouaméni, et ce quatuor offensif dont on va parler forcément, Michael Olysee, entouré à gauche de Bradley Barcola, à droite de Désiré Doué évidemment. Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque des Bleus.
Lionel, tu vas nous donner ton avis sur la compo des Bleus dans une seconde, mais d'abord côté ukrainien, on a donc une incertitude sur le positionnement. Pour l'instant, on nous annonce, bon, Troubine dans les buts bien sûr, tout va dépendre du positionnement de Zinchenko, souvent utilisé au milieu de terrain avec la sélection ukrainienne. Là, il est à gauche de la défense, sa position historique, on va dire. Donc Zinchenko arrière-gauche, Konoplia arrière-droit, Zabarny le Parisien et Matvienko en défense centrale. Au milieu de terrain, Kaliuzny et Yarmoliouk, la pépite ukrainienne de Brentford. À gauche, nous aurons Zubkov, à droite Gutsouliak et un duo Sudakov-Dovbik. Tout ça bien sûr en attendant de voir les positionnements exacts sur le terrain. Lionel, la compo bleue d'abord, c'est donc pour la quatrième fois de suite quatre attaquants alignés par Didier Deschamps. Il y a un vrai virage, mais maintenant il faut trouver l'équilibre.
Ouais, c'est ça, c'est bien beau de trouver le virage, maintenant il faut l'équilibre aussi. Alors l'équilibre offensif, j'en doute pas, par contre l'équilibre défensif, savoir comment tout ça va s'articuler du côté de Barcola. Est-ce que c'est Koné qui va venir fermer côté gauche en digne un petit peu plus haut? Voilà, c'est l'articulation. Après moi, cette équipe, de toute façon, quand tu la regardes, quand tu regardes les individualités, enfin faudrait vraiment être faire la fine bouche, mais honnêtement, les individualités sont exceptionnelles. Maintenant, faut que tout ça, ça marche. Faut que tout ça, on sait que le football, c'est pas fait que d'individualité. Il faut un bloc, il faut un groupe, mais Dédé est maître en la matière. Donc moi, je lui fais confiance. Mais c'est vrai qu'il va pas falloir trop tergiverser pour le mondial, à changer tout le temps. Il va falloir trouver une ossature. Moi, je le vois comme ça.
Et on sent que ça a été une préoccupation même chez Kylian Mbappé. Hier en conférence de presse, il a eu ces mots-là, de dire qu'il fallait forcément garder cet équilibre, que c'était un défi pour eux. Jouer offensif c'est bien, mais il a pas oublié les 5 buts encaissés contre l'Espagne. Ah ouais. Il croyait même avoir pris des buts contre l'Allemagne, ce qui n'a pas été le cas, parce que l'un d'eux avait été refusé logiquement. Mais
il dit c'est parce que Maignan a été bon en première mi-temps
et que Mike Maignan a été bon, mais il s'est vu en danger. Il sait que l'équipe a été un peu fébrile défensivement. offensivement, et c'est le défi de Didier Deschamps, historiquement connu comme un entraîneur, un sélectionneur qui aime l'équilibre. Là, il se lâche un petit peu plus.
Avec aussi, ouais, sur le banc, des armes offensives. Hein. Ekitike va peut-être connaître sa première sélection, lui qui est en pleine bourre avec Liverpool. Il y a Akliouche également, il y a Marcus Thuram, il y a Ousmane Dembélé qui ne s'est pas entraîné correctement. Il a repris avec le groupe hier seulement. Il y a de quoi faire, Lionel. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Non, c'est franchement cette équipe de France, elle est pleine de talent. Maintenant, encore une fois, ces talents, ben, faut qu'ils arrivent à jouer ensemble. Alors, ce n'est pas aussi que d'aider, hein. Il faut aussi qu'il y ait un gros investissement de la part des joueurs, que chacun ait envie de se dépouiller pour l'autre, et que quand il va falloir défendre, eh ben, il va falloir le faire ensemble, pas les uns après les autres. Quand il y a eu cette prise de conscience qu'on ne jouera plus, que ces joueurs-là ne joueront plus pour des stats personnels, mais pour une stat collective, elle va être redoutable, cette équipe. J'ai aucun doute.
Alors, on va voir ce qu'en pense Romain, qui a fait le 32-16 et qui veut réagir à cette compo d'équipe. Salut Romain et bienvenue sur RMC.
Bonsoir messieurs, bonsoir Jean-Louis, bonsoir Lionel, et il me semble qu'il
y a... Et Florent Germain, il y a un accent marseillais.
Il y a un petit accent marseillais.
Tu l'as pas reconnu.
Et une odeur de sandwich, mon cher Romain. Alors, je t'ai reconnu.
Je sais que Flo, à chaque fois, ça me fait plaisir, parce qu'à chaque fois, tu as le petit mot gentil, c'est adorable.
Bon, j'espère que tu vas bien, mais parle-nous un peu des deux.
Il est sympa, Flo.
Pour revenir sur ce que vous disiez, messieurs, ben, je vous donne raison. J'ai envie de pousser un poil plus le débat, parce qu'on est au début des qualifs et qu'on a le temps. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir un vrai groupe. Parce que pour reprendre un peu les dernières compétitions qu'on a perdues, 2016, le poteau de Dédé Gignac, ben, c'est pas un gars qui est titulaire dans le 11. Colomboigny en 2022, c'est pas un gars qui est titulaire dans le 11. Donc d'avoir un vrai groupe avec des gars capables, comme dit Coach Courbis, de commencer et d'autres de finir le match, c'est pas plus mal. Et c'est, je pense, la première fois qu'on a vraiment un vrai groupe de 20 joueurs capables d'être titulaires. Donc c'est en ça où ça va être dur de devoir gérer les individualités pour savoir qui est le plus à même de commencer et de finir. Le seul bémol que je mettrais par rapport à vos propos, quand on dit qu'il faut pas trop changer, bon ben il y a deux visions. Est-ce qu'on se dit on a un 11 et quoi qu'il arrive c'est ce 11-là, ou est-ce qu'on essaye des fois de s'adapter à l'adversaire qu'on va avoir en face de nous, encore plus avec cette Coupe du Monde-là, on risque de jouer des adversaires d'un niveau très différent. Et je pense qu'il va falloir le gérer, que ça va un peu changer la manière d'aborder ce type de compétition. On ne parle pas d'un championnat, on ne parle pas d'une Ligue des Champions.
Tu penses que quand tu as un groupe comme ça, un groupe talentueux, généralement, l'équipe talentueuse, bah, ce n'est pas elle qui s'adapte aux autres, c'est aux autres de s'adapter. Comment ils vont bloquer Barcola dans la profondeur, Désiré Doué qui va dézoner, jouer dans les espaces et notamment naviguer entre son côté droit et le milieu, tourner autour, se rapprocher d'Mbappé avec un Koundé qui vient dans le... Tout ça, c'est difficile à contrer. Et je pense que t'as plus un casse-tête quand tu joues contre la France que la France quand elle joue contre même l'Espagne. C'est pas pour moi, même les Espagnols font mal à la tête.
Je te donne raison, Lionel, mais celui qui nous a désavoué, c'est notre sélectionneur. Parce que selon qui ont joué, c'était Dembélé offensive gauche, et selon qui ont joué, c'était Rabiot. Et de vous-même, quand on en parlait à RMC, on se disait, bon ben voilà, là on sait qu'on va jouer une grosse équipe, on sait qu'on va avoir droit à Matuidi, ailier gauche, faux numéro, faux ailier gauche en 2018. Donc de nous-mêmes, on se donnait ce message et cette manière-là.
Ça a un peu changé quand même. En 2022, la Coupe du Monde, il y a un offensif supplémentaire. Oui.
Tu connais Dédé, parce que ça a changé, ça a un petit peu changé avec le quatuor, mais depuis on a pris des.
Mais il le maintient des buts, c'est ça qui est intéressant. Et il va demander à tout le monde de travailler sans doute pour aller chercher cet équilibre.
Romain, merci d'être venu au 32-16.
Oui,
je suis d'accord avec Romain. Je suis d'accord avec Romain lorsqu'il dit c'est vrai, si tu mets 4 attaquants pour les faire jouer en défense, ça va pas le faire.
Alors, on le disait, on le salue Romain, il a été bon. C'est le début de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Alors je dis campagne de qualification alors que tout va être resserré. Hein. Ça va se jouer sur les 3 mois qui viennent. Donc il y a 2 matchs là. Ce soir donc contre l'Ukraine, ici en Pologne, à Wrocław. Ensuite il y aura l'Islande mardi. Et ensuite il y a l'Azerbaïdjan dans le groupe. Et fin novembre donc, cette poule de 4. Je vous explique le fonctionnement hein, si vous n'avez pas en tête. Et vous allez voir qu'a priori, il y a peu de chances d'être éliminé en tout cas. Donc les premiers groupes sont qualifiés pour la Coupe du Monde pour les États-Unis. C'est clairement l'objectif hein. Quand on voit ce groupe, il faut finir premier. Les deuxièmes vont en barrage Et en plus des 12 deuxièmes qui vont aller en barrage, on ajoute les 4 équipes mieux classées à la Ligue des Nations. Donc on se rajoute en fait. Donc on peut même finir dernier de notre groupe, on sera quand même en barrage. Voilà. Et sachant que les barrages...
Et si avec ça l'Italie fait pas la Coupe du Monde, hein.
Ah oui, t'as raison. Et en barrage, attention quand même, c'est 2 matchs à gagner. C'est un système de Final Four en fait. Les barragistes sont regroupés en 4 équipes et tu fais un match puis une finale de barrage. Bon,
avec voilà. Logiquement un vrai objectif d'éviter ces barrages. Et du coup, le discours de Didier Deschamps hier et même cette semaine depuis le rassemblement, de dire c'est la vérité que le premier match c'est le plus gros match. Ouais. Parce que c'est l'Ukraine qui est au-dessus de l'Islande, ouais, et au-dessus de l'Azerbaïdjan, et que ce sera du coup à l'extérieur avec voilà, un stade plein, on va en parler, un stade à guichet fermé. Bon, alors c'est vrai que ce format resserré et tout ce que tu as rappelé, Jean-Louis, ça donne le sentiment que la qualif ça va le faire. Sauf que s'il y a une première défaite ce soir, tout se joue dans un laps de temps tellement court que la pression sera forte.
Défaite, oui, et en plus le mois prochain tu vas en Islande. Bon, c'est pas cadeau non plus, donc effectivement il n'y a pas de temps à perdre. En parlant de l'Islande, on vous offre tout ce week-end vos places pour le match de mardi. C'est au Parc des Princes, c'est à 20h45. Vous pouvez aller assister à France-Islande. On a 2 places pour vous. Pour jouer, vous envoyez France par SMS au 732-16. France par SMS au 732-16. On est à une demi-heure grosso modo du coup d'envoi d'Ukraine-France. L'avant-match continue sur RMC dans quelques secondes. On va parler de Kylian Mbappé et de cette sélection ukrainienne et du contexte autour d'elle qui est forcément particulier. Grosse colonie ukrainienne attendue à Wrocław pour cette rencontre. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC, l'After Live.
Jean-Louis Tour.
Il est 20h17 sur RMC. On est en direct de Pologne, à moins d'une demi-heure du coup d'envoi d'Ukraine-France. Le premier match des Bleus dans la campagne de qualification pour la Coupe du Monde aux États-Unis. On est avec Florent Germain ici en Pologne, Lionel Charbonnier de la Dream Team. Avant de vous parler de cette équipe d'Ukraine et du contexte autour des joueurs qui sont à l'échauffement là sous nos yeux, Kylian Mbappé, puisqu'il est de l'avis de tout le monde de plus en plus en forme. Avec le Real, il a déjà marqué dans ce début de saison. Et c'est le capitaine fédérateur. C'est le mot qui revient le plus. Et c'est lui-même qui l'a employé hier en conférence de presse.
J'ai un peu plus d'expérience. Ça fait maintenant 2 ans, un peu plus, 3, que j'ai le brassard. Donc j'ai grandi en tant que capitaine. J'étais un novice quand j'ai commencé. Je commence à essayer de comprendre un peu mieux certaines choses, essayer de toujours être fédérateur, essayer de toujours impliquer tous mes coéquipiers dans pas mal de choses, dans la vie active du collectif de l'équipe, essayer de donner aussi de la liberté et de la participation à de nombreux joueurs qui sont maintenant des nouveaux cadres, parce que c'est une nouvelle équipe, c'est un groupe qui est plus jeune, et d'essayer de trouver la place à chacun de mes coéquipiers, parce que chacun des coéquipiers qui sont là a une place, quand bien même elle n'est pas forcément sur le terrain des fois, mais elle est ô combien importante dans la vie d'un groupe, et si on veut aller loin dans les compétitions qui sont les nôtres, et notamment la Coupe du Monde cet été.
Voilà pour l'évolution du capitanat de Kylian Mbappé. Flo, c'est vrai qu'hier en conférence de presse, ça avait rien à voir avec ce qu'on avait pu constater il y a un an dans la façon de parler de Mbappé.
Le jour et la nuit, même quand il est arrivé, qu'il s'est installé, si on regarde son attitude, le body language, le sourire, sa manière de fixer l'assistance, d'aller taquiner un enfant qu'il appelle jeune journaliste pour ensuite discuter avec lui. Bon, il était très détendu, effectivement souriant. On sent qu'il a un point en moins, cette légèreté peut-être qui lui manquait. Et d'ailleurs Didier Deschamps, dans une phrase et un langage qui appartient à Deschamps, a dit que ça ne lui a pas pesé le brassard, mais que quand même c'était lourd à porter. Donc je me suis refait le son 2-3 fois. Il a quand même bien estimé, le sélectionneur, que dans la période qu'on connaît, où il y avait des histoires autour de lui, venir en conférence de presse, répondre à 80% de questions qui étaient plus sur lui que sur les Bleus, ça pèse forcément un peu. Et là on l'a trouvé détendu.
Lionel, à ton avis, c'est lui qui a un peu la clé de tout, Mbappé. On sait que les Coupes du Monde, ça le met dans un état particulier. Là, on sent qu'avec le Real, il est en jambes aussi.
Alors, je pense qu'il a déjà la clé de lui-même. C'est-à-dire que s'il surjoue le personnage Mbappé, il va diviser le groupe.
ça c'est évident. Enfin, en tout cas, c'est moi je le vois comme ça. C'est la plus grosse évidence pour moi. À partir du moment où Mbappé va devenir très collectif, qu'il soit fédérateur, oui, mais sans vouloir tirer les couvertures, ça c'est très important. Alors là, le groupe va naître. Et comme il le disait si bien, trouver une place pour chacun de ses coéquipiers. C'est pas, alors il y en a qui vont mal l'interpréter, qui vont dire oui, bah, il veut faire l'équipe et tout ça. Non, c'est pas ça. Parce qu'un groupe, c'est savoir aussi 90% des joueurs qui vont former cette équipe de France, et notamment l'ossature, vont être généralement des leaders de vestiaire, voire des leaders techniques dans leur propre club. Il faut que quand ils viennent en équipe de France, chacun trouve sa place, tout en restant soi-même, donc un leader, et c'est là où c'est très compliqué. Mais un leader, pas plus leader que le leader d'à côté. Savoir devant qui je peux être, derrière qui je peux être.
Tu racontes souvent qu'en 98, il y avait presque 22 leaders, quoi.
Mais il y avait 22 leaders. Mais le problème, c'est de savoir quand est-ce que toi, même si tu joues pas, par exemple, moi je te parle en connaissance de cause, il y avait des moments, j'étais un leader, j'étais capitaine à Auxerre, j'étais un leader de vestiaire, mais fallait pas que je l'ouvre plus que Dédé à certains moments. Et si Dédé ne l'ouvrait pas, bah peut-être que c'était à moi d'en mettre une qui était remplaçant, tu vois, de dire oh les gars, et savoir comment la mettre, quelle parole je vais utiliser, est-ce que je vais regarder certains joueurs, est-ce que je vais regarder personne, tu vois, est-ce qu'on va cibler, c'est vraiment compliqué, et c'est là, et c'est comme ça, et c'est maintenant, et ça c'est, ça prend du temps. Et c'est là, dans les sélections, on n'a jamais le temps. Et en plus là, il y a trois mois, tu disais, ça va être très concentré. Donc ça doit se faire très vite. C'est pour ça que moi je disais, faut pas trop bouger le groupe et avoir une bonne ossature.
De toute façon, Lionel, bon, on peut discuter du personnage, de son caractère, etc. Mais c'est un garçon et un attaquant qui est intelligent. Il a dû se rendre compte que ça a créé des crispations aussi dans le vestiaire des Bleus, qui prennent autant la lumière, qu'il y a des histoires. Et lui, qui est forcément porté comme d'autres compétiteurs par un objectif qui peut le transcender, à savoir la Coupe du Monde, il sait qu'il peut pas se permettre qu'il y ait encore des polémiques et que son comportement soit remis en cause. Donc, avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2026, on peut espérer et logiquement penser qu'il a pris conscience de tout ça.
Alors voilà, la difficulté vient de marquer là à l'échauffement un coup franc. Voilà.
Oui, c'est bon. La c'est difficulté bon, c'est pour Mbappé, tu vois, c'est, bah, c'est, je prends le ce que dit Flo, il a complètement raison. Mais il ne faut pas non plus, c'est là que ça va être difficile pour lui, qu'il s'efface de trop. Il faut qu'il reste Mbappé, mais sans être Mbappé qu'il est. Mais ouais, c'est ça le, c'est aussi compliqué pour lui.
Et quand t'es à son poste, avec le nombre de buts qu'il peut marquer, forcément, il est en naturellement. Il a même pas forcé.
Là d'ailleurs, il a un but d'égaler Thierry Henry à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs.
Mais imagine qu'il soit dans une mauvaise passe. Comment ça va se passer? On a déjà vu des attaquants qui étaient en mauvaise passe.
D'autres prennent le relais.
Lui-même, voilà, faut qu'il y en ait d'autres qui prennent le relais, parce que si lui l'ouvre et qu'il met l'équipe en défaut parce qu'il marque pas les buts, son discours il va pas passer. C'est pas facile, hein, les mecs.
Laissons Mbappé de côté, on le retrouve pour le coup d'envoi de cette rencontre qui est maintenant dans une vingtaine de minutes. L'adversaire des Bleus ici en Pologne, c'est l'Ukraine. Valentin Jamin est avec nous, spécialiste de l'Ukraine pour RMC Sport. Salut Valentin.
Bonsoir à toutes et à tous.
Ah oui, tu suis en particulier cette sélection et le contexte particulier autour de cette sélection. On rappelle d'ailleurs, c'est ce contexte qui fait qu'on est en Pologne, à Wrocław ce soir.
Oui, c'est une sélection en exil depuis le début de la guerre, il y a plus de 3 ans maintenant. Les Ukrainiens qui effectivement, alors jouent pour la 3e fois ce soir à Wrocław. C'est le stade qui a été le plus utilisé, mais ils ont également des fois été délocalisés à Poznan en Pologne, mais également en République tchèque, en Allemagne, en Espagne parfois, en Slovaquie. Donc c'est une sélection, on peut dire, sans domicile fixe en quelque sorte. Ils se retrouvent sur des stages sans passer par la case Ukraine, bien évidemment. Donc chacun vient depuis son club pour aller à la trêve sur le lieu du stage ou du match. Et puis il y a les joueurs aussi qui évoluent encore en Ukraine. On en parlera évidemment peut-être pendant le match, mais certains qui jouent au Shakhtar Donetsk. Et là, il faut quitter l'Ukraine aussi pour se rendre sur le lieu du stage. Et ça n'est jamais facile parce que les liaisons aériennes en temps de guerre eh bien, sont parfois coupées. Donc, parfois c'est du car, du bus pour aller jusqu'au lieu, pour franchir les frontières, même pour les suiveurs, les journalistes, pour avoir échangé avec certains. Ils nous disaient, ils ont mis quasiment une journée à venir ici alors qu'on est à 600 mètres de la frontière. Donc c'est très compliqué.
600 kilomètres.
Ouais. Pardon, oui, 600 kilomètres. Sinon ce serait pas une journée.
Vraiment pas loin.
Effectivement. Donc voilà, opérationnellement c'est compliqué, émotionnellement c'est compliqué. Et pourquoi venir ici à Wrocław? Parce que le stade est beau déjà, il y a tout ce qu'il faut. Et puis il y a une très grosse communauté ukrainienne en Pologne. On parle d'1 million de réfugiés dans tout le pays depuis le début du conflit, et ici particulièrement, ça dépend des forces, mais on nous dit en gros un quart de la population de la ville est ukrainienne ou d'origine ukrainienne, et donc on voit beaucoup d'Ukrainiens en ville, voilà, des chauffeurs de taxi, des restaurateurs qu'on a pu croiser. C'est pour ça aussi que le soutien est très très fort, et on voit énormément de drapeaux. Souvent nous on a la culture de venir au stade avec le maillot, là tout le monde a le drapeau sur les épaules, et les joueurs devraient l'avoir en sortant, en chantant l'hymne, parce que les supporters nous disent voilà, on les supporte parce que ils font des efforts, ils représentent notre pays, ce sont des guerriers à leur manière, donc il y a évidemment plus que du football pour les Ukrainiens.
On en voit déjà énormément, hein, des drapeaux ukrainiens là autour de nous, alors que le stade est assez peu rempli. On attend quoi, 40 000 Ukrainiens ce soir?
40 000 personnes, 25 000 Ukrainiens,
okay,
15 000
okay.
Polonais et 400 Français pour être précis, mais une grande majorité d'Ukrainiens.
J'ai une petite question, j'espère que je vais pas t'envoyer une patate chaude, mais ils en sont où? Parce que là, il y a pas mal de joueurs qui sont issus du championnat ukrainien. Comment ça se passe, leur championnat?
Alors leur championnat, il a repris.
Il joue, c'est vrai que c'est ça qui est dingue. Non, c'est un pays en guerre qui a toujours son championnat national.
Il joue au pays. Alors ça avait été interrompu au moment du début du conflit.
Il joue au pays. Il n'y a pas de stades qui ont été bombardés. Il n'y a pas eu de choses comme
si
ça.
Si c'est arrivé, pas des stades majeurs, par exemple du Shakhtar, etc. Mais il y a des règles très strictes. Alors déjà, beaucoup de clubs ont été délocalisés en fonction des régions où ils évoluaient pour aller jouer parfois dans des régions un petit peu plus à l'est du pays. Et puis surtout, Lionel, il y a un protocole, c'est que si jamais il y a une alerte aérienne, le match peut être interrompu. Si au bout d'une heure on n'a pas repris, on reporte la fin du match à un autre jour, donc il y a des matchs qui parfois sont coupés en deux et se terminent 15 jours plus tard. Donc voilà le contexte du championnat qui a également connu une fuite des talents, même étrangers, qui ne voulaient pas jouer dans ce contexte, mais le championnat continue. D'ailleurs il y a pas mal de joueurs encore en sélection qui viennent de ce championnat, mais le contexte est très particulier, on a délocalisé des clubs, des matchs, et parfois donc en fonction du contexte, certains ne peuvent pas aller au bout.
Il y a un stade qui a subi des bombardements, c'est la Donbass Arena où l'équipe de France a joué à l'Euro 2012. Alors il n'y a plus de match là-bas dans le Donbass, donc ça n'a pas posé de problème vis-à-vis de l'organisation d'un match, mais le stade a été bombardé il y a quelques années maintenant. Voilà pour répondre à Lionel. On a fait le tour sur l'Ukraine.
Avec un petit paramètre, c'est que ce stade a été le théâtre de la qualif pour l'Euro de la part des Ukrainiens. Ils avaient joué contre l'Islande avec un but de Modric qui n'est pas là ce soir, on ne sait pourquoi, pour cette sanction pour dopage. Et donc il y a aussi ce paramètre un peu affectif, tu racontais bien ça, de cette ville de Wrocław avec une grosse communauté ukrainienne, et aussi le sentiment que ça peut leur porter chance. Donc attention, parce que ce stade sera plein et prêt à vibrer.
Et sportivement, on a l'impression aussi que Rebrov veut tourner une certaine page. Il y a des joueurs qui ont peu de sélection qui sont là, qui sont titulaires. Il y a des absents aussi côté ukrainien. Yaremchuk est blessé, Mykolenko également, Tsigankov est dans le groupe mais il est blessé, il s'est pas entraîné hier. Lounine est blessé au dos, le gardien c'est Troubine qui est titulaire, et puis il y a également Yaremchuk donc qui est blessé, ça je l'ai dit, et voilà, une envie de renouveler de la part de Rebrov. On parie sur cette rencontre, cette Ukraine-France.
Winamax, le plus important c'est de gagner, c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Yoann Guy de la rédaction des Paris RMC. Salut Yoann.
Salut messieurs, salut à toutes et à tous.
Alors, salut. Les cotes de ce match et ton pari?
La France est très largement favorite en Pologne. 1,33, la victoire des Bleus, le nul est à 5,20. L'Ukraine est à 9,50. Messieurs, je vois une rentrée timide, calme, mais efficace de la part des Bleus, à l'image du pragmatisme de Didier Deschamps. Et il y a un petit bonbon qui me plaît bien, c'est la France qui s'impose par un but d'écart. C'est coté à 3,50.
Le but de Mbappé?
Le but de Mbappé, en plus, on a une grosse cote boostée qui est sympa. Elle passe de 1,90 à 2,50.
Ah oui, c'est pas mal.
Ça peut être sympa.
Tu fais quoi?
Ouais, mais alors moi, j'irai... Tu sais, les mois de septembre, ils font toujours peur pour l'équipe de France. Donc, j'irai sur un nul mi-temps. Ça pourrait avoir du mal à se débrider, ce match-là. Okay. Nul mi-temps et la France ne perd pas avec un but de Mbappé.
Alors, attends, si je te fais déjà le nul mi-temps, c'est coté à 2,40. Je te rajoute le but de Mbappé, on monte déjà à 5,80. Et si derrière, je te mets dans les résultats la France qui ne perd pas, on monte à 6.
Voilà. Pas mal ça, hein.
Pas mal du tout.
J'adore Lionel, c'est toujours travailler, c'est réfléchir les paris. Ah non, franchement, ça fait plaisir. Merci Lionel.
Ça passe pas fort.
Ah ouais, mais au moins il y a une réflexion. Attends, c'est le principe. Pourquoi les gens viennent écouter les paris RMC? Pour avoir une réflexion, un raisonnement, et après ouais, c'est
et après sportif,
ça passe, ça rate.
Si, bravo, si mon Jean-Louis. Sur... Non mais c'est vrai. T'es mon meilleur si avocat.
Si on était sur des paris, on ferait pas ce métier, on ferait plus de paris.
Exactement.
Voilà, faut faire un deuxième ticket.
On faut faire un deuxième ticket. Exactement. Allez, merci Johan.
Petit ticounet.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
20h30 sur RMC. Restez avec nous dans une seconde. Vous allez être immergés dans l'entrée des équipes, l'avant-match, les hymnes, cette Ukraine-France en intégralité sur RMC. Le début peut-être d'une campagne de Coupe du Monde qui mènera les Bleus à New York fin juillet. On l'espère. Ça commence dans quelques secondes. Restez avec nous.
RMC, l'After Live.
Jean-Louis Tour.
Il est 20h35, on est en direct de Wrocław, la Tarczynski Arena pour Ukraine-France avec Florent Germain, avec Lionel Charbonnier. Dans quelques secondes, les deux équipes vont arriver sur la pelouse. Vous entendrez les hymnes, bien sûr, en intégralité. Puis le match du début à la fin. Vous pourrez venir au 32-16 à la mi-temps pour débattre dans l'after également, qui sera là jusqu'à minuit avec plein d'infos au niveau des instances dans la journée à commenter, notamment l'interview Joseph Ougourlian, Franck McCourt, qui sera décrypté dans l'after ce soir. Avant l'entrée des équipes, on va rappeler les deux compos d'équipe. Flo, la compo des Bleus.
Mike Maignan dans le but, dans ce 4-2-3-1 à la sauce Didier Deschamps. Jules Koundé à droite de la défense, Lucas Digne à gauche. Charnière centrale, Ibrahima Konaté et Dayo Upamecano. Devant la défense, au milieu, Manu Koné et Aurélien Tchouaméni. Et ce quatuor offensif avec Michael Olise au cœur du jeu. À gauche, Bradley Barcola. À droite, Désiré Doué et Kylian Mbappé, le capitaine à la pointe de l'attaque.
La compo décidé par Sergueï Rebrov, le sélectionneur ukrainien. Anatoly Troubine dans les buts, conséquence du forfait de Lounine, le gardien du Real, blessé au dos. Défense centrale, Ilya Zabarny, le parisien, 50e sélection à 23 ans seulement, avec Matvienko en défense centrale. A priori, on se dirige vers un 4-2-3-1 dans la sélection ukrainienne, mais on va voir le positionnement notamment de Zinchenko, a priori arrière-gauche, Konoplia sur le côté droit de la défense. Au milieu de terrain, Yarmoliouk et Kalyuzny. À gauche, Zubkov. À droite, Goutsouliak. Et un duo Soudakov en soutien de Dovbik pour l'animation offensive de cette équipe ukrainienne. Lionel, tu t'attends à quel entame de match? Tu disais, les Bleus peuvent avoir du mal sur la première période?
Je pense. Alors déjà, le mois de septembre, c'est souvent une équipe, enfin une période où l'équipe de France a quelques petits soucis, parce que tous les joueurs pratiquement qui vont composer cette équipe de France sont préparés physiquement pour être aller dans un pic au mois de novembre. Donc là, ça peut moins bien se passer, contrairement aux joueurs de l'Ukraine en face, qui eux sont préparés tout de suite dans leur championnat. Il y a moins de grosses échéances, je veux dire, en Coupe d'Europe, en Champions League et tout ça. Donc je pense que ça pourrait être compliqué au début. Et puis attention à pas laisser prendre prendre confiance ces Ukrainiens, parce que s'ils prennent confiance, ça va être compliqué. Je pense qu'ils vont jouer à 5 derrière, moi.
Ah, c'est possible, oui. Zinchenko peut aller au milieu de terrain. À voir qui serait piston gauche dans ces cas-là. Bon, on va voir le positionnement de façon là dans moins de 10 minutes.
Je me suis fait, Jean-Louis, quelques matchs de septembre là pour une rentrée des Bleus. Ouais. Parce que souvent on dit que c'est une période compliquée. Bon, il y a eu des bons résultats, il y en a eu d'autres moins bons. On se souvient notamment du France-Italie. Hein, c'était surtout il y a un an avec cette défaite. Ouais. Il y avait eu un match nul en Ukraine d'ailleurs, un but partout en 2021. Puis surtout une défaite au Danemark en 2022. Donc c'est vrai que c'est pas une période qui réussit toujours aux Bleus.
Et on est curieux de voir la défense hein, par rapport au rassemblement de juin. Il y a les retours de Koundé, d'Upamecano notamment. Les deux équipes viennent de pénétrer sur la pelouse. C'est solennel, hein. Notamment la présence des Ukrainiens. Drapeau sur le dos. Drapeau ukrainien sur le dos. Lourd de sens donc cette entrée. Et le public qui crie Ukraina autour de nous pour saluer donc cette sélection ukrainienne dont le pays est en guerre avec la Russie. Les Bleus sont là également. Les hymnes vont retentir d'ici quelques secondes. Et voilà, on commence par la Marseillaise.
Voilà pour l'hymne français. Et on va enchaîner par un moment, on l'imagine, plein d'émotions, comme à chaque fois que l'hymne retentit, les Ukrainiens sont bras dessus, bras dessous, avec une main sur le cœur, une main sur l'épaule du coéquipier. L'hymne ukrainien. Émotion donc sur les visages des Ukrainiens au moment de cet hymne, c'est forcément particulier pour eux. On le rappelle, hein, énormément de joueurs donc jouent encore dans le championnat ukrainien au Shakhtar Donetsk, au Dynamo Kiev, et certains ont forcément eu des membres de leur famille qui ont été réfugiés. Il y a eu énormément de mouvements. On parle d'un million, 1,5 million de réfugiés ukrainiens sur le sol polonais où le match a lieu ce soir. Le contexte au centre de cette rencontre, on a vu le visage notamment d'Ilya Zabarny qui a beaucoup parlé du conflit et de sa cohabitation avec Matei Safonov. Il en a beaucoup parlé sauf hier en conférence de presse, hein, où il a éludé la question. En tout cas, place au foot maintenant, place à cette...
Et pas de veste de survêtement, hein, pour les Ukrainiens, t'as vu ? Eux, ils sont pas là. Les Français avaient tous, exactement, ils avaient tous ce drapeau en guise de, pour expliquer à nos auditeurs, en guise de cap. Tous le drapeau, pas de veste de survêtement, le maillot, le drapeau par-dessus.
Et la photo traditionnelle des 11 joueurs du côté ukrainien, elle a été faite avec le drapeau de l'Ukraine. Mais c'est vrai, Jean-Louis a parlé d'un moment très solennel. Et quand on regardait autour de nous pendant l'hymne, les visages, l'émotion, ça remet quand même les choses à leur place, hein, par rapport à ce qu'est un match de football. Ce paramètre qu'on a une équipe ukrainienne, une sélection qui joue pour un pays et qui va être sûrement transcendée.
Et le foot doit continuer aussi. C'est ce que disaient les Ukrainiens sur leur championnat. Ça le vaut aussi pour les matchs de sélection, pour montrer que la guerre, que les Russes n'ont pas gagné, et que donc la vie peut continuer aussi pour les Ukrainiens autant que possible. On place au foot maintenant. Les capitaines ont échangé les fanions. Kylian Mbappé dans les bras de Désiré Doué. C'est parti pour la campagne de qualif, donc pour la Coupe du Monde pour les Bleus. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a que 6 matchs, un groupe de 4, une première place à aller chercher et une grande détermination chez les Bleus, alors que les Ukrainiens sont réunis en cercle.
Et on parlait de Kylian Mbappé et de son rôle de fédérateur. On le voit faire le tour de ses coéquipiers, effectivement, pendant que les Ukrainiens, avec quelques leaders comme Zinchenko, tu l'as dit, comme Ilya Zabarny, sont en train de parler et de se tenir bras dessous avant de débuter cette rencontre. Kylian Mbappé, il a fait le tour de tous ses coéquipiers pour venir taper dans la main des Bleus et lancer cette campagne qui doit les mener vers la Coupe du Monde 2026.
L'arbitre, monsieur McKelly, le néerlandais, pour le coup d'envoi de cette rencontre Ukraine-France sur RMC avec Florent Germain, avec Lionel Charbonnier. On va y aller avec un coup d'envoi pour l'équipe de France. Kylian Mbappé, Michael Olysee juste derrière pour donc lancer cette rencontre. On a le positionnement clair et on a bien une Ukraine à 4 derrière, hein, Lionel, sur le positionnement au coup d'envoi. On a bien Zinchenko, Matvienko, Zabarny et Konoplia derrière. C'est parti pour cette Ukraine-France, coup d'envoi donné par les Bleus avec un premier ballon pour la défense française.
Et maintenant c'est le football qui va parler. Effectivement, il y a des sifflets parce que les Bleus qui sont en blanc ce soir auront le ballon. On a vu Michael Olise, ça repasse derrière avec la chaîne centrale Upamecano et Ibrahima Konaté, les bleus qui vont prendre le temps d'aller écarter probablement sur le côté droit. Il y a Jules Koundé qui demandait le ballon, il est servi.
Ouais, Koundé qui va chercher le relais avec Désiré Doué, le contrôle de balle de Doué tout de suite. Zinchenko, c'est peut-être pour ça aussi que Zinchenko est là sur le côté gauche de la défense pour serrer Désiré Doué de près, qui est l'une des armes et des dangers de cette rencontre.
Et c'est un duel qui va valoir vraiment le détour, hein. Zinchenko, Doué, il y a l'expérience de l'Ukrainien d'un côté, le talent de, et l'insouciance peut-être de Désiré Doué, mais ça vaudra le détour. Le ballon pour les blancs, les bleus qui vont essayer de trouver une solution et d'écarter côté gauche. Il y a Lucadin qui demande le ballon et c'est lui qui est servi sur le côté gauche.
Ouais, Digne qui est servi. Manu Koné est redescendu pour essayer d'aider à la construction du jeu. On repasse avec Konaté qui trouve une passe mi-longue pour Lucadin. Le bon contrôle de Digne qui essaie de combiner avec Barcola.
Barcola avec Michael Olise. Il y a une solution pour Aurélien Tchouaméni. On est dans le rond central. Un ballon peut-être côté droit pour le joueur du Barça, Jules Koundé. Il a devant lui Olise. Peut-être un appel de Kylian Mbappé. Il va revenir derrière avec Tchouaméni.
Tchouaméni, toujours le ballon pour les Français hein, dans ce début de rencontre. Manu Koné qui est trouvé maintenant. On se déplace sur le côté gauche. Il y a la solution Digne. La solution Barcola, c'est Digne qui est trouvé avec son pied gauche. Il préfère revenir. On garde le ballon le plus possible côté français.
Les 4-4-2, c'est vrai, côté ukrainien, mais un bloc solide. Ils sont bien regroupés. C'est compliqué de trouver des espaces. Désiré Doué, côté droit, à 30 mètres environ de la cage de Troubine. Le gardien ukrainien repasse par Ibrahima Konaté. Il y a Upamecano à gauche pour une solution de simplicité ou peut-être aller casser une ligne et écarter côté droit finalement avec Koundé.
Allez, Koundé, il va peut-être tenter quelque chose, trouver une passe. L'appui avec Désiré Doué. On repasse en retrait sous la clameur ukrainienne. Les encouragements du public. Des dizaines de milliers d'Ukrainiens qui sont là pour pousser la sélection. Mais petit décalage trouvé avec Lucadine.
Ouais, 2 minutes 0-0. Effectivement, les bleus qui ont le ballon, mais qui ne trouvent pas de solution. Kylian Mbappé obligé d'un petit peu de décrocher. Il est à 20 mètres de la cage ukrainienne. Lucadine dans un tout petit périmètre avec Barcola. On ressort pour désormais Tchouaméni qui est en position de défenseur et qui donne le ballon à Olise.
Faut trouver la clé. Faut trouver la clé du verrou côté français. Et il s'y emploie en gardant le ballon. Koundé, côté droit maintenant. Désiré Doué, le contrôle. La conduite de balle de la semelle. Et on repasse en retrait. Il est serré de très près par Zinchenko à chaque prise de balle. Désiré Doué. Ballon toujours pour les bleus.
Et on est sur une séquence vraiment de longue, très très longue possession et un ballon en retrait. Là, de la tête, c'est bien fait de la part de Konoplia pour son gardien Anatoly Troubine. On va voir si les Ukrainiens se débarrassent du ballon ou s'ils préfèrent eh bien, relancer court et proprement. Mais on a vraiment vu un début de rencontre très clair. Les Ukrainiens qui sont bien regroupés derrière et les bleus qui essayent de faire tourner le ballon pour se créer des solutions.
Ouais, et on a pour l'instant une équipe d'Ukraine qui va essayer de trouver le bon positionnement sur les sorties de balles parce que c'est la première qu'ils ont eu à gérer. Ils arrivent à garder le ballon, les Ukrainiens, sur le côté droit.
Avec Lukadin qui au duel eh bien, conserve ce ballon, en tout cas permet aux bleus d'obtenir une touche et c'est joué rapidement pour parler de la Barcola, la vitesse peut-être du joueur du PSG. Le contre favorable avec justement son coéquipier désormais au PSG, il y a Zabarni. Contre favorable au final pour le défenseur ukrainien et intervention de l'arbitre, toujours 0-0.
Ouais, le ballon pour Zabarni derrière, il repasse avec Troubine. On combine avec Matvienko maintenant, le long ballon de Matvienko, mais le bon pressing là de Michael Olise qui a contré ce ballon, ça permet aux Français une récupération haute.
Oui, ils jouent assez haut les joueurs de l'équipe de France. On voit pas trop Didier Deschamps pour le moment qui est eh bien assis sur son banc. On a le sentiment que peut-être cette possession de balle lui convient et on passe par Upamecano avec à gauche Lucadine.
Ouais, Lucadine avec son pied gauche avec une nouvelle clameur là du public ici à Broclo. Là, le bon décalage là, Manu Koné, faute sur Manu Koné. La faute est signée Kaliuzny il me semble sur cette charge, alors que les Français avaient trouvé un petit décalage notamment grâce à un ballon glissé par Bradley Barcola.
Et tu citais Manu Koné, c'est vrai qu'il décroche pas mal pour toucher eh bien, un maximum de ballons. C'est lui le joueur de l'AS Roma qui va donner à Ibrahima Konaté. On est encore dans le camp des Ukrainiens. Koundé, Mbappé, ça joue en triangle avec Désiré Doué qui met le pied et la semelle sur le ballon pour repasser par Aurélien Tchouaméni.
Ouais, Tchouaméni avec Upamecano maintenant dans le rond central. Konaté, on cherche l'ouverture, la passe qui peut créer un décalage. Mbappé, il a été à contre-temps complet avec Désiré Doué. Ils ne se sont pas trouvés. Ballon récupéré par les Ukrainiens.
Oui, volonté des Ukrainiens, récupérer le ballon, peut-être jouer vite, aller de l'avant avec Konoplia qui est alerté et au final un ballon en retrait. Plat du pied de Ilia pour Ilia Zabarni avec son gardien, le dégagement et le duel qui doit être emporté là par les Bleus et par Lucadine. Toujours ballon dans les pieds ukrainiens, ça va aller de l'avant.
Ouais, là, le bel extérieur du pied de Yarmoliouk et l'attaque des Ukrainiens. On est sur le côté gauche maintenant avec Zinchenko avec son pied gauche. Il trouve Goutsoulia qui va mettre le ballon dans la surface de réparation. Le saut de la tête d'Upamecano très haute pour se dégager, puis celle de Konaté, ballon toujours dans la surface.
Et peut-être une frappe à l'entrée de cette surface justement de réparation. Première offensive et c'est du sérieux. Zinchenko, côté gauche, qui sent le dégagement de la charnière centrale des Bleus. On a senti ce bruit, cette clameur, c'est très sourd et ça peut être assourdissant peut-être pour les Bleus quand on voit que l'Ukraine va à l'attaque. Ça a été un semblant d'occasion, mais la pression était là.
Ah ouais, ça résonne fort sur les ballons dans la surface de réparation. Mais deux belles interventions de Dayo Upamecano pour sauver les Bleus. Et Zinchenko, il a toujours son pied gauche. Hein. Ça se passe moyennement avec Arsenal. Il a été prêté à Nottingham Forest. Mais le pied gauche, quand il a de l'espace, il est là. Dommage que Dovbyk ait pas senti le coup pour couper pour les Ukrainiens. Mais tant mieux pour nous. 6 minutes de jeu, 0-0 entre l'Ukraine et la France.
Et le ballon toujours pour les Ukrainiens, mais compliqué à négocier. Ce ballon pour Yukim Konoplia, le contrôle de la poitrine quasi impossible. L'extension et du coup la touche sera française avec Lucas Digne. Les Bleus qui vont avoir ce ballon dans la charnière centrale avec Konaté. Effectivement, Upamecano solide dans les airs sur ses deux centres, costaud. Mais concentration maximale obligatoire parce qu'il y avait quand même trois Ukrainiens, j'ai regardé, dans la surface sur le centre de Zinchenko.
Et il y en a un que je surveille côté ukrainien, il s'appelle Yarmoliouk, il a 21 ans, c'est sa troisième sélection. Il joue à Brentford et il est annoncé comme le futur du milieu de terrain ukrainien. Et c'est lui qui, au début de cette action, avec un petit extérieur du pied, qui a trouvé le décalage. Ballon toujours pour les Ukrainiens, on a du mal à remettre le pied sur le ballon comme en début de rencontre. Peut-être là sur ce long ballon, non, les Ukrainiens arrivent à récupérer la possession de la balle et ils vont peut-être même avoir la touche. Non, elle est pour Koundé, elle est pour les Bleus.
Allez, avec Aurélien Tchouaméni, tout près de la ligne médiane, on repasse par Dayo Upamecano avec peut-être Lucas Digne ou Bradley Barcola. Il a un petit peu de champ devant lui. Est-ce qu'il va aller fixer dans un côté qu'il connaît par cœur, Bradley Barcola? Ça repasse par l'axe avec Manu Koné et peut-être désormais Jules Koundé. Allez, côté droit.
Koundé qui a Olise comme soutien. Il a Désiré Doué également. Doué qui contrôle, qui arrive à se retourner, peut-être à prendre de la vitesse. Le petit exter de Doué, il est contré par Goutsoulia qui était bien revenu défendre. Il cherchait l'appel de Michael Olise. Les Ukrainiens essayent de se relancer. Là, il y a un pressing français, mais ils arrivent à s'en sortir, notamment grâce au jeu de corps de Dovbyk.
Oui, ils sont costauds aussi offensivement avec Konaté. La bonne couverture du joueur de Liverpool qui avait vu que ça partait vite dans le dos. Il donne ce ballon à Mike Maignan, mais ils savent se projeter aussi, les Ukrainiens, avec ce physique de Artem Dovbyk qu'il va falloir appréhender. Même si ils sont costauds, ils ont du répondant Upamecano et Konaté. On a un joueur qui fait quand même 1m90 et qui est difficile à bouger en général.
Lionel, tu parlais peut-être d'une première mi-temps qui serait difficile pour les Français. Le petit pont de Kylian Mbappé là qui va peut-être pouvoir trouver un décalage. Il revient dans l'axe, il est à 35 mètres du but, il va trouver Jules Koundé maintenant sur le côté droit. Koundé pour Olise.
Allez, Olise avec son pied gauche, pourquoi pas se mettre en position de frappe pour revenir vers Tchouaméni. Toujours 0-0 entre l'Ukraine et la France. Et Désiré Doué qui combine avec Mbappé, c'est bien fait, ça a failli passer. Désiré Doué, pourquoi pas la frappe pied gauche de Désiré Doué qui est contré, c'est pas terminé peut-être pour les Bleus.
Ouais, non, la récupération ukrainienne est là grâce à Konoplia devant Barcola et les Ukrainiens vont perdre rapidement le ballon. On est en train de pousser là, Lionel, même si on avait du mal sur les quelques dernières minutes là.
Ouais, on a du mal, mais je pense qu'on va avoir du mal assez longtemps, en tout cas tant qu'on ne marquera pas ce premier but qui pourrait obliger les Ukrainiens à sortir un peu plus, parce que là ils mettent franchement à regarder le collectif, le mouvement collectif de cette équipe ukrainienne défensivement, c'est vraiment bien. Deux lignes de 4 à 20 mètres l'une de l'autre et tout le monde bouge en même temps comme les barres de baby-foot, tu vois. Pour l'instant il n'y a pas un membre d'une ligne qui fait l'élastique. Tout est bien organisé, c'est compliqué pour les Français quand même.
9 minutes de jeu, 0-0 entre l'Ukraine et la France. Match de qualif à la Coupe du Monde. Ballon pour les Ukrainiens après une protection de balle de Dovbyk maligne pour aller derrière obtenir le coup franc.
Allez, ballon côté droit pour Konoplia. C'est un poison défensivement et offensivement. Et heureusement que les Bleus savent se positionner. On avait vu la lecture du jeu visiblement de la part de Manu Koné qui fait un bon match. Hein. On le trouve assez présent dans le volume de jeu et dans l'anticipation. Défensivement, il a été précieux. Toujours 0-0. Ballon récupéré par Michael Olise.
Et l'ouverture d'Olise pour Barcola, elle est bonne. Il y a de l'espace pour Bradley Barcola qui s'emmène le ballon. Il est au duel avec Konoplia sur le côté gauche. Il avance. Barcola, il va tenter quelque chose dans la surface désormais avec son pied droit en retrait. La frappe d'Olise. Elle a vu. Pour l'équipe de France, Mike Pascal Olysée avec son pied gauche qui a profité du débordement de Bradley Barcola. C'est lui qui est à l'initiative de ce but. Le long ballon d'Olysée, c'est un grand 1-2 entre les deux. Olysée pour Barcola, la conduite de balle de Barcola, le ballon en retrait, le plat du pied gauche d'Olysée qui lance parfaitement cette rencontre.
Ah, c'est parfait ce plat du pied, ça ressemble à son but contre l'Allemagne avec Kylian Mbappé qui avait accéléré rapidement pour le servir. Et derrière, il y a un plat du pied qui est impeccable de la part du joueur du Bayern de Munich. Et effectivement, Bradley Barcola, il a eu cette intelligence de fixer, de centrer en retrait. Et les Bleus font mal au bon moment. Il mène un but à zéro. Michael Olysée, troisième but avec l'équipe de France.
Ouais, troisième but en 9 sélections seulement pour lui. C'est le choix fort de Didier Deschamps de l'installer. C'est lui l'attaquant supplémentaire par rapport au schéma habituel de Deschamps, installé en numéro 10 derrière Mbappé. Et c'est un choix payant. Les Bleus mènent 1-0. Et ben le voilà ce but Lionel.
Ah ouais. Ben je pense que maintenant voilà, il va falloir que les Ukrainiens aillent égaliser, qu'ils s'ouvrent un petit peu plus. Et on a vu, hein, c'est la première fois qu'on a trouvé Barcola dans le dos de cette défense. Et comme par hasard, il a fixé sur son côté gauche. Et Olysée qui s'est fait oublier dans un premier temps en plein milieu du terrain pour venir finir. Et sa finition, elle est mais tranquille. Il est en pleine, franchement, pleine confiance. Olysée met un petit plat de pied comme ça, deuxième poteau, mais comme s'il n'y avait pas de gardien, quoi. Bravo. Ouais.
Position un peu curieuse de Konopli, hein, l'arrière droit qui est un peu fautif quand même sur le long ballon pour Barcola.
Ils se sont fait surprendre dans leur dos.
L'évolution des cotes, les Bleus mènent 1-0 ici en Pologne face à l'Ukraine, Johan Guillet.
Les cotes étaient déjà déséquilibrées, mais c'est encore plus le cas maintenant, messieurs. 1-12, la victoire de l'équipe de France. Le nul est à 7,50, l'Ukraine est à 17.
Tout va bien, on mène 1-0. Restez avec nous sur RMC, la suite de cette rencontre. 1-0 pour les Bleus face à l'Ukraine.
RMC, l'Afterlife.